FM, le journal Melkon Ajamian.
Bonjour, vous suivez le journal quotidien d'Hype FM. La police a continué de bloquer vendredi 3 mai toutes les routes menant au village frontalier de la province du Tavouche dans le nord de l'Arménie, un jour après l'arrestation de dizaines de résidents locaux qui tentaient d'empêcher la cession de territoires adjacents à l'Azerbaïdjan. Le gouvernement arménien a dénoncé les actions des manifestants comme un blocus illégal. Seules les personnes vivant dans le village de Kirans ont été autorisées à entrer ou à sortir de la zone qui ont été l'épicentre des manifestations de colère contre la décision du Premier ministre arménien de céder quatre zones frontalières contestées qui font partie de la province du Tavouche depuis le début des années 90. L'impact de leur cession prévue serait particulièrement grave pour Kirans, qui devrait perdre non seulement une grande partie de ses terres agricoles, mais aussi une partie du territoire à l'intérieur du village même. Des centaines de policiers anti-émeutes ont nettoyé un camp de protestation juste à l'extérieur de Kirans tôt jeudi, arrêtant 3 douzaines de personnes dans le processus. Le ministère arménien de l'Intérieur a déclaré que la police assure un service renforcé pour permettre aux autorités compétentes de délimiter et de déminer la zone en vue de la rétrocession. Depuis, l'archevêque Bagrat Galestanian, chef du diocèse de l'église arménienne pour la région du Tavouche, a décidé de marcher vers Yerevan avec les membres du mouvement Tavouche pour la patrie. Cette voie désastreuse de concession unilatérale n'a ni fin ni limite. Du nord au sud, nous sommes en train de subir une grande et incompréhensible hémorragie. Ce processus doit être arrêté, a déclaré Bagrat Galestanian avant la marche. Le mouvement Tavouche pour la patrie a donc décidé de se rendre à Yerevan à pied, situé à près de 160 km, mené par Bagrat Galestanian avec son peuple. « Si Dieu le veut, nous serons à Yerevan le 9 mai », a déclaré le chef du diocèse de Tavouche. Bagrat Sarpazan a indiqué dans son discours hier que d'autres forces politiques les avaient également rejoints, sans donner d'autres détails. Il a souligné qu'il n'y a pas de force politique spécifique ici, mais que de nombreuses personnes ont voulu participer à leur marche, qui visait à arrêter le processus de démarcation des frontières, ce qui est, selon eux, inacceptable. Dans le même temps, la diaspora s'organise. Le centre de coordination suédois demande la démission unilatérale de Nikol Pachinian et du gouvernement de la République d'Arménie. Pour rappel, la Suède abrite environ 13 000 Arméniens et constitue une diaspora en constante évolution. Dans un communiqué, le centre de coordination suédois a déclaré, je cite, « Le soi-disant processus de démarcation qui se déroule dans la région du Tavouche, en République d'Arménie, est organisé sur la base de décisions inadmissibles prises par les autorités actuelles et inacceptables pour la nation arménienne. Il n'y a aucune base juridique et cela contredit les principes internationaux de démarcation. Un tel processus ne peut pas se produire en même temps que l'effondrement des fondements sécuritaires de l'État arménien, ainsi que la constitution de la République d'Arménie. Les décisions unilatérales du Premier ministre arménien contredisent les intérêts de la République et du peuple arménien. Il est également important de noter que l'ensemble du système juridique de la République d'Arménie est devenu un homme de main des autorités et un outil punitif. Les poursuites sans fondement, les arrestations et le recours à la force brutale sont devenus le mode opératoire du gouvernement démocratique actuel. Nous, Centre de coordination des unions arméniennes de Suède et les Arméniens de la diaspora vivant en Suède, exprimons notre plus grande méfiance à l'égard du gouvernement arménien représenté par Nikol Pachinian et exige la fin immédiate des concessions unilatérales et de tous les processus qui menacent la sécurité et l'existence de la République d'Arménie. L'Arménie est libre de mettre fin à son adhésion à l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, l'OTSC, a déclaré vendredi la ministre russe des Affaires étrangères en réponse aux menaces de sortie proférées par le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. « Nous ne remettons toujours pas en question le droit souverain de nos partenaires arméniens à déterminer la manière indépendante de leur politique étrangère, y compris dans le contexte de poursuite des travaux de l'organisation », a déclaré la porte-parole du ministère, Maria Zakharova, lors d'un point presse à Moscou. Permettez-moi de vous rappeler que l'article 19 de la charte de l'OTSC établit la possibilité de quitter l'alliance, a déclaré Zakharova. Dans ce cas, un État membre doit envoyer une notification officielle au plus tard 6 mois avant la date de retrait. Le gouvernement arménien, a-t-elle ajouté, a pris aucune mesure dans ce sens jusqu'à présent, malgré ses accusations constantes diffusées à l'encontre de l'organisation. Cela signifie que l'Arménie reste pour l'instant un membre à part entière de l'alliance militaire dirigée par la Russie et qu'elle doit remplir les obligations obligations appropriées, a-t-elle ajouté, sans préciser quelles étaient ses obligations. Notre peuple se demande pourquoi nous continuons à être membres de l'Organisation de traités de sécurité collective. Pour être honnête, je n'en ai même pas la réponse, a déclaré Nicole Pachinian à la fin du mois dernier. L'Arménie a officiellement demandé le soutien de la Russie et d'autres États membres de l'OTSC après les opérations militaires lancées par l'Azerbaïdjan le long de la frontière arméno-azerbaïdjanaise en septembre 2022, et le gouvernement arménien a accusé Moscou à plusieurs reprises d'avoir ignoré cette demande. Les menaces de quitter l'OTSC s'inscrivent dans le cadre de la rupture plus large entre Yerevan et Moscou, qui continue de s'approfondir. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré en mars que l'administration de Nicole Pachinian menait les relations arméno-russes vers l'effondrement. L'Azerbaïdjan continue de détruire les complexes dédiés aux héros et aux martyrs en Artsakh occupé. Une autre cible de cette politique arménophobe est donc le panthéon des héros de Stepanakert qui a été intégralement détruit. Les informations à ce sujet sont diffusées via les chaînes Telegram azerbaïdjanaises. Selon l'article 4 de la Convention de l'AE de 1954 pour la protection des biens culturels, en temps de conflit armé, tout acte de vandalisme, vol, pillage, appropriation, hostilité ou représailles contre le patrimoine culturel est interdit. Le premier protocole de l'AEM de 1954 interdit la destruction de biens culturels ou spirituels dans les territoires occupés, indique le rapport. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis.
AIPFM y était. L'émission sur l'événement marquant dans la communauté arménienne, présentée par Melkon Ajamian et Nouné Mardirossian tous les lundis à 12h15. AIPFM Neshkaesh. Հաղորդաշար նվիրված հայկական համայնքին։ Հետևեք Նունե Մարտիրոսյանի և Մելքոն Աջամյանի պատրաստած հաղորդմանը ամեն երկու շաբթի ժամը 12:15-ին։
L'urgence géopolitique de la démocratie au Moyen-Orient et dans le Caucase. Cet événement, organisé par le Laboratoire de la République, a rassemblé experts, décideurs politiques et acteurs de la société civile pour débattre des défis auxquels sont confrontées les forces démocratiques de la région, en mettant plus particulièrement en lumière les cas de l'Arménie et du Kurdistan. Ont été interrogées les perspectives d'élargissement des alliances, les liens avec les pays qui s'inscrivent dans une logique de paix et le soutien aux oppositions des régimes hostiles au modèle démocratique. Dikran Yegavian, journaliste et chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement, a exposé le danger de l'accord pour le tracé des frontières otavouches ainsi que la place de la géopolitique internationale.
Alors, j'étais présent ici au mois de septembre l'année dernière pour, dans la foulée du nettoyage ethnique de l'Artsakh. J'avais fait un petit topo sur la situation. Et je me rappelle avoir dit que l'Arménie, en perdant le Haut-Karabakh arménien, perdait à la fois son berceau et son bouclier. Elle perdait son berceau parce que c'était sur ce territoire grand comme le département du Rhône que se situaient les principaux monastères, les principales églises dans lesquelles la civilisation arménienne s'est épanouie, il y a plus de 1000 ans. Et puis son bouclier parce que le relief de cette région permettait d'accorder une profondeur stratégique à un État qui est un État exsangue, démographiquement, enclavé, sans accès à la mer, et surtout entouré d'ennemis mortels, en l'occurrence la Turquie à l'ouest, qui, comme on peut le voir sur cette carte, a bloqué, a fermé sa frontière en 1993, impose un blocus total, ce qui est un acte de guerre depuis 1993, en solidarité avec son petit frère turcophone, l'Azerbaïdjan à l'est, qui, depuis plus de 20 ans, pratique une politique raciste, terroriste, contre l'Arménie, c'est-à-dire contre les Arméniens en général. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui se passe depuis la guerre de 2020 du Karabakh, et surtout le nettoyage ethnique qui s'est passé dans l'indifférence quasi générale de l'opinion internationale de les Arméniens de l'Artsakh, vers l'effondrement d'un État non reconnu, c'est qu'on assiste à un processus lent mais inexorable d'anéantissement, de dévitalisation de l'État arménien. On pense naïvement que, en reconnaissant les frontières internationalement reconnues après la chute de l'Union soviétique, l'Arménie pourra enfin respirer, enfin se projeter. Malheureusement, il y a des guerres, et ce serait bien de prendre des autres cartes. Comme vous pouvez le constater, d'autres cartes, s'il vous plaît. Voilà, vous avez ici en rouge, en assuré, les territoires que les forces armées azerbaïdjanaises ont conquis, ont grignoté depuis 2 ans. Il s'agit de territoires extrêmement stratégiques. Ce sont des hauteurs stratégiques qui permettent en fait aux Azerbaïdjanais d'accroître l'étau sur leur mine, parce que il y a deux plans en fait. Il y a deux projets. Le premier projet des Azerbaïdjanais, c'était d'anéantir les Arméniens de l'Artsar. Mais le deuxième projet consiste à avoir une jonction territoriale avec la Turquie via la région du Narithiran, c'est-à-dire en finir une fois pour toutes avec cette région que vous voyez au sud de l'Arménie, qui est en fait le Sunik, qui est un corridor stratégique extrêmement important, qui permet en fait à l'Arménie d'avoir une frontière avec l'Iran, qui permet à l'Arménie aussi d'avoir des ressources naturelles, parce que c'est une région assez riche en minerais. Et pour l'Azerbaïdjan, cette région est extrêmement importante, parce que ça permettrait d'avoir une continuité territoriale. Donc on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire dans un contexte où l'équilibre des rapports de force est totalement défavorable aux Arméniens, puisque ils ont été en quelque sorte lâchés par leurs protecteurs traditionnels, en fait, la Russie qui, à l'aune du conflit russo-ukrainien, est beaucoup plus proche de l'Azerbaïdjan qu'elle était avant. Une interdépendance beaucoup plus marquée qui s'explique notamment par le fait que l'Azerbaïdjan sert de voie de contournement des sanctions internationales en reprenant en fait ces hydrocarbures russes qu'elle revend aux Européens, estampillés gaz et pétrole azerbaïdjanais. Donc on a un schéma en fait où l'Arménie n'a plus d'architecture de sécurité. Il y a un vide sécuritaire total. La jeune démocratie arménienne cherche désespérément des alliés, des secours à l'ouest. On n'en est pas tout à fait dans un pivot occidental, mais en tout cas, ça s'approche en tout cas d'une situation où l'Arménie a atteint un point de non-retour, c'est-à-dire qu'elle la brouille avec la Russie et est suffisamment grave pour s'interroger sur les chances de survie de l'État arménien, sachant qu'à chaque fois que l'armée azerbaïdjanaise poursuit ses incursions en territoire arménien, la Russie ne bouge pas. Aujourd'hui, il y a aussi une situation qui est très 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 inquiétante, c'est-à-dire que dans le cadre d'un accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan de tracé de la frontière, l'Arménie va devoir céder des territoires dans le nord-est, c'est-à-dire vous voyez ici, sur cette route, vous avez plusieurs enclaves qui sont des villages qui étaient issus à l'époque soviétique intégrées dans les frontières administratives de l'Azerbaïdjan soviétique. C'était des frontières administratives qui avaient été tracées par les soviétiques dans l'optique justement de rendre ces frontières, ces états non viables. C'est-à-dire, le propos des soviétiques, c'était diviser pour régner afin de s'imposer comme des arbitres et de ne pas d'empêcher donc les vassaux de s'émanciper de cette tutelle. Ce sont des territoires très importants parce que vous avez autour de ces territoires des routes, une route stratégique et un gazoduc et des hauteurs stratégiques qui permettront en fait aux Azerbaïdjanais de pouvoir être en mesure de contrôler l'Arménie. Donc c'est effectivement très grave que personne ne s'inquiète de cet accord. Ça a été salué par les Américains, par les Occidentaux, par les Européens, parce que en fin de compte, les Américains, les Européens, ils ont un point commun. Ce conflit dérange. Ce qui importe en fait à ces acteurs, c'est que la Russie quitte le Caucase du Sud. Donc l'Arménie risque de passer par perte et profit, risque d'être une variable d'ajustement. Un mot sur la France. On a noté un rapprochement sans précédent entre Paris et Erevan depuis 2020 et surtout depuis 2022-2023. Ce rapprochement se traduit par, bien sûr, une aide diplomatique. La France a soulevé cette question du nettoyage ethnique plusieurs fois et aussi du blocus de l'Artsar au Conseil de sécurité. Et puis, fait sans précédent, on a eu un ministre des Armées qui s'est rendu donc en février dernier pour la première fois en Arménie. Donc l'aide militaire que la France propose à l'Arménie pour l'instant, elle est importante, certes, mais elle est tout à fait symbolique. Elle n'est pas suffisamment significative pour qu'il y ait dissuasion et surtout pour que la France remplace la Russie. Pour l'instant, on n'en est pas encore, mais ce que peut faire l'Arménie, c'est beaucoup aussi, parce que l'Arménie, eh bien, elle n'est pas seule complètement dans cette géopolitique complexe des empires dans lequel la mondialisation nous rattrape. Vous avez des acteurs comme l'Inde qui sont favorables à la sécurité de l'Arménie, qui sont proches de la France. Donc l'Arménie pourrait être un pilier relais d'influence de la France dans ce qui pourrait ressembler à un axe Paris-Yerevan-New Delhi. Mais encore une fois, on a deux mots-clés que moi je retiens et que je n'ai pas entendu lors du discours du Premier ministre, M. Gabriel Attal, prononcé au dîner du CCAF. C'est le mot dissuasion et c'est le mot sanction. Dissuaser, c'est-à-dire permettre à l'Arménie de freiner, de stopper l'agresseur, dissuader et sanctionner l'agresseur. Parce que cet agresseur, c'est quand même rendu responsable de plusieurs crimes de guerre, aura la barre. le blocus en soi qui a affamé la population est un crime de guerre, le nettoyage ethnique et l'ethnocide qui s'en est suivi de la destruction progressive du patrimoine arménien, chrétien, constitue aussi un crime qui n'est pas sanctionné par l'UNESCO. L'Azerbaïdjan continue à avancer, sachant que le crime paye, qu'il y a une impunité totale, et c'est là qu'on attend. On attend la France pour sanctionner. L'ambassadeur de France, Madame l'ambassadeur de France a été rappelée à l'acceptation compte tenu de la dégradation des relations bilatérales. La France doit pouvoir chercher des alliés au sein de l'Union européenne qui considèrent que l'Azerbaïdjan est une menace aussi pour nos démocraties. L'Azerbaïdjan est un pays qui pratique donc une politique extrêmement coercitive contre ses propres opposants qu'elle pourchasse aussi à l'extérieur de ses frontières, notamment en France. C'est un pays qui représente une menace aussi en général pour la région, pour les minorités. C'est un pan-turquisme, on va dire, agressif. Si l'Azerbaïdjan parvient à ses fins, c'est-à-dire couper l'Arménie en deux, à la dévitaliser totalement, c'est ce qu'elle cherche, de rendre complètement cet État non viable économiquement, démographiquement, eh ben, le Caucase ressemblera à quelque chose comme l'Afghanistan. Donc moi, je suis extrêmement inquiet, lucide, et je pense que nous sommes informés sur ce qui se passe. Nous avons alerté à plusieurs reprises le danger pan-turquiste. Ce qui manque à l'Arménie, c'est véritablement un allié. Pour l'instant, la France est un partenaire, quelque chose comme ça, mais elle n'est pas encore un allié. L'Arménie fait toujours partie, en tout cas sur le papier, d'une alliance avec la Russie, mais qui ne représente plus grand-chose sur le terrain.
Patrice Franceschi, écrivain spécialiste de la région, a démontré le parallèle entre la cause de la défense de la démocratie arménienne et celle des Kurdes.
Nous avons pris l'habitude depuis très longtemps de faire les guerres à moitié, que ce soit au Kurdistan contre Daesh, avec l'Arménie, etc. Et quand on fait les guerres à moitié, franchement, il vaut mieux pas faire la guerre du tout que de la faire à moitié, parce qu'on est à chaque fois certain de les perdre. Les guerres, elles se font totalement ou elles ne se font pas. C'est ce que nous avons fait au Kurdistan. Moi, j'ai été frappé d'une chose, pour faire le lien entre Arménie et Kurdistan, c'est que la dernière fois que j'étais en Arménie et au Karabakh, je crois que c'était en 2021, j'avais été à demi surpris, mais pas trop quand même, de voir qu'en face des Arméniens et des combattants du Haut-Karabakh, c'était les mêmes que moi j'avais au Kurdistan trois jours avant. C'est-à-dire que les Turcs avaient envoyé plusieurs milliers de miliciens pro-Daesh, il faut le dire, renforcer les troupes azéries. Bon. Et je me suis dit à ce moment-là, ce qui se passe au Kurdistan syrien, dans la région d'Afrine, qui s'est passé en 2018, c'est ce qui va arriver au Karabakh tôt ou tard. Afrine est une région la plus à l'ouest du Rojava. Je reviendrai après sur ce que représente le Rojava, mais tout de suite, Afrine est une région peuplée à 100% de Kurdes, 800 000 habitants. En janvier 2018, les Turcs arrivent à soudoyer les Russes encore une fois. En fait, ils s'échangent, on est en pleine guerre contre Daesh. Les Russes échangent les problématiques qu'ils avaient dans la région de la Ghouta avec les islamistes contre les Kurdes d'Afrine. La guerre a duré 58 jours en janvier 2018, a fait beaucoup de morts. Les Kurdes se sont battus farouchement en espérant que la France allait intervenir, que la coalition internationale intervenir comme à Kobané. Quand ils se sont aperçus que ce ne serait pas le cas, on leur disait on va venir, mais on ne viendra jamais, en réalité, parce que les guerres, encore une fois, on va la faire qu'à moitié. On ne veut pas non plus trop choquer M. Erdogan, qui veut cette région-là, pour empêcher la continuité territoriale du Rojava. Bon, on l'a lu à nouveau. S'en est suivi un nettoyage ethnique sur 800 000 personnes, très rapide. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui depuis 2018? C'est une fois, je ne sais pas ce qui va se passer au Karabakh, mais je présuppose que ça va être la même chose. C'est une fois qu'on a évacué, massacré beaucoup de monde, ceux qui ne voulaient pas partir, ceux qui se battaient, et tous ceux, familles, etc., qui ont fui, on les a totalement fait disparaître territorialement, et bien on réinstalle d'autres populations. Ce qu'ont fait les Turcs depuis 2018 est assez impressionnant. Et que la presse française souvent relaie en disant « qu'est-ce qu'ils sont sympas ?» Ils réinstallent dans le nord de la Syrie des réfugiés syriens, arabes, qui s'étaient enfuis à cause de la guerre en Turquie. Oh, qu'est-ce que c'est bien ! Sauf que, évidemment, ce sont des Arabes pro-turcs, qu'il n'y a pas que des Arabes, il y a beaucoup de Ouïghours. Ils leur construisent des villes tout à fait impressionnantes, il faut les voir, à Damier et tout ça. On t'installe là avec ta famille, tu nous devras allégeance totale, évidemment. Tu as une petite maison, tu as un petit jardin, etc. Ils le font progressivement, ce n'est pas tout à fait terminé, mais ils vont le faire totalement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Maintenant, par rapport au Karabakh, de ce qui risque de se passer, c'est qu'on lui a laissé ce brave Erdogan faire ce qu'il voulait dans cette région-là, et d'aller jusqu'au nettoyage ethnique après avoir tué des dizaines de milliers de civils. Et bien, un an plus tard, en 2019, et c'était Trump, Erdogan s'est autorisé à se dire, bon, puisque les Occidentaux finalement lâchent dans un coin, ça m'autorise à continuer, et il a attaqué le cœur du Rojava en 2019. S'est emparé d'une zone de 30 km sur 100 où il réinstalle Daesh pour attaquer évidemment les Kurdes et où les cellules dormantes de Daesh, un peu partout dans le Rojava, sont réactivées depuis ces zones dont il s'est emparé. Ce qui veut dire, et il a tout à fait raison, que si nous ne faisons rien pour le Haut-Karabakh, si nous considérons, comme certains qu'après tout, bon, perdre des profits pour le Haut-Karabakh, on va sécuriser l'Arménie, même si on donne un petit bout par-ci, un petit bout par-là, ça va les calmer, ils seront contents et l'Arménie sera protégée. C'est une erreur fondamentale. Abandonner le Haut-Karabakh et dire qu'on va le passer par profits et pertes, c'est au contraire faire penser aux Azéris, à Aliyev, que finalement l'Occident se dégonfle, n'ira pas jusqu'au bout, ne fera pas la guerre, parce qu'on a peur de la guerre, et que par conséquent, la prochaine fois, il pourra faire exactement ce qu'il veut sur l'Arménie. Et on peut présupposer que cette prochaine fois, ce sera après novembre de cette année, car pour l'instant, il ne fera rien, à mon avis, tant qu'on lui a donné la cote. Hein, voilà. Il ne va pas salir son image internationale en attaquant l'Arménie avant la COP. Et puis, il y a des élections américaines. Attendons de voir si ce n'est pas Trump qui passe. Et après, je pourrais demander à Trump de faire exactement comme Erdogan avec les Kurdes, de me donner un blanc-seing pour prendre un petit bout. Hein. Au début, il gagne un petit bout par petit bout. Voilà. Nous avons une diplomatie, notamment, je peux me permettre de le dire, après tout, qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Nous avons une inhibition permanente, même au niveau militaire, à utiliser notre puissance. De l'autre côté, il n'y a aucune inhibition à utiliser la puissance. Et ce différentiel, c'est vraiment notre grand problème, je dirais, politique et démocratique. Donc, pour revenir aux Kurdes, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand est-ce qu'on les a aidés? Après les attentats. Bon, ils sont, moi, depuis 10 ans, je suis sur le terrain avec les Kurdes. J'ai bien vu l'avant des attentats, le Bataclan, etc., et après. Avant, vous pouviez plaider tout ce que vous voulez, en disant, regardez, ces gens-là, ils nous ressemblent. Ils se battent pour la liberté, la démocratie, l'égalité homme-femme, la laïcité, le respect des minorités, etc. Il faudrait peut-être faire l'écologie, tout ce qu'on veut, il faudrait peut-être un peu les aider. Bah ben non, on n'a pas, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, puis de toute façon, la rhétorique de l'impossible est tout le temps là. Que peut-on faire? À partir du moment où il y a eu les attentats, on s'est aperçu qu'ils avaient été commandités depuis Raqqa. Alors là, il y a eu un choc. Ils vont recommencer, il faut aller taper Raqqa. Bien. Comment va-t-on faire? Comment faire pour faire une guerre à zéro mort? On les tapait Raqqa, mais il y avait les Kurdes. Pendant les cinq années de la campagne militaire de la coalition internationale avec les Kurdes, qui étaient nos troupes au sol, jusqu'à la fin territoriale de Daesh, c'était une campagne militaire, je peux vous en parler de près, extraordinaire. Nous avons perdu, nous Français, un soldat à Raqqa. Un. Les Kurdes, 36 000 tués et blessés. Mais une fois qu'il n'y avait plus d'âge territorialement, qu'est-ce qu'on a fait? Comme d'habitude, puisqu'on est à court terme, il n'y a plus d'âge, eh bien on arrête. Et au lieu de se dire, et ça concorde, hein, été 2019, d'âge est éliminé, et novembre, octobre 2019, Erdogan, il en profite, puisqu'on est parti en gros, et il attaque. Bien. Avoir de la suite dans les idées, franchement, qui nous identifie vraiment. De l'autre côté, chez les dictateurs, chez les chefs totalitaires, il y a de la suite dans les idées. Erdogan est un homme d'État, un vrai. Là, je ne parle pas de jugement de valeur. Je dis ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut, et il ira jusqu'au bout. Aliyev, c'est pareil. Nous avons des atermoiements permanents. C'est notre faiblesse, car nous aurions tous les moyens de faire quelque chose, si nous voulions. Voilà. Il est encore temps avec le Haut-Karabakh et avec l'Arménie. Il ne faut pas y aller avec des demi-mesures. Ce que fait la France, c'est bien, mais c'est insuffisant. Il faut absolument, vous savez, dans ces conférences, c'est vachement génial, on discute, tout le monde est d'accord. Est-ce qu'il y a une opposition? Personne, tout le monde est d'accord. Et après, on va rentrer chez nous, on dit, on va prendre un café, on a fait notre boulot, on est des mecs vraiment sympas. Hein. On a parlé, on a dit qu'il faut les défendre. Hein. On va boire un verre et au combat. Ben non, il ne se passera rien de plus. Donc il faut, dans ces cas-là, décider que ce type de conférence, à mon avis, doit aboutir à des décisions très claires. On ne va pas les faire la guerre. On ne va pas dire demain il faut aller bombarder à l'arme atomique Bakou. Non. Mais de dire que tous nos moyens réels, l'aide militaire, la diplomatie et la politique doivent avoir des objectifs très précis. Voilà. Par exemple, décider que la France doit être leader immédiatement dans, en faisant tout ce qu'il faut politiquement et diplomatiquement pour entraîner l'Europe tout entière, on appelle ça l'Union européenne, hein, à aider l'Arménie tout entière. Par exemple, militairement. Si ce que la France fait en aide militaire en ce moment en Arménie, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, tout le monde faisait à peu près pareil, ça va déjà être beaucoup mieux. Pourquoi ne pas décider de dire qu'il faut que la France fasse ça? Par exemple, qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, sans arrêt, on fasse chier à l'effet compagnie et Erdogan. Et si vous y allez tous les jours, il faut y aller tous les jours. Et qu'on ne nous dise pas, qu'on ne dise pas, oh, mais il y aura un veto, ça ne servira à rien. Si, ça va servir à leur mettre le nez vraiment dans leurs problèmes en permanence. Et tout simplement parce que Erdogan a violé et a défaussé toutes les règles internationales. Il occupe actuellement le nord de la Syrie en grande partie. Alors, rappelez-vous, après Afrique, etc., condamnation aux Nations Unies, la une des journaux le lendemain et le surlendemain pleurait. On passe à autre chose. Et ils le savent très bien, ça sert à rien. Il faudrait tous les jours il y ait des condamnations pour qu'à la fin il se passe quelque chose. Donc je pense que faire en sorte que la France soit leader pour que l'Union Européenne, et en faisant chier l'Union Européenne tous les jours s'il le faut, pour aider l'Arménie militairement, politiquement et diplomatiquement, ça doit être une décision ici de dire faisons tout pour ça. Et tout le reste de ce que j'ai dit, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà.
Asmik Tolmadjan, ambassadrice d'Arménie en France, a mis en avant la dictature azerbaïdjanaise et le besoin de soutenir l'Arménie face au régime totalitaire dans la région.
Vous savez, cette année, en 2024, presque la moitié de la population de la planète a été appelée à voter aux urnes. Mais ça ne veut pas dire un renforcement de la démocratie, aussi paradoxal que ça puisse paraître, mais au contraire, l'année 2024 est considérée par de différentes organisations internationales comme l'année où la démocratie a eu le plus grand recul depuis la fin de la guerre froide. Donc, un suffrage universel, un vote, des urnes, c'est le symbole même de l'exercice de la démocratie, mais on voit bien quand même que c'est devenu de plus en plus une simulacre de démocratie dans différents pays du monde, et malheureusement, donc, notre région ne fait pas exception. Juste pour vous dire comment pour expliquer pourquoi l'Arménie est une îlot démocratique dans cette région. Donc, en face de nous, on a un Azerbaïdjan, où le président actuel est l'héritier de son père, donc de Ilham Aliyev, qui a régné presque sans partage en Azerbaïdjan près de plus de 40 ans. L'épouse du président actuel, Madame Aliyeva, est la première vice-présidente, donc la continuité est assurée. C'est un pays qui est classé tout récemment encore par différentes organisations internationales en matière de la défense des droits de l'homme, comme parmi les 10 pays les plus liberticides au monde. Et ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs aujourd'hui j'ai regardé aussi le score l'indice de la démocratie en Azerbaïdjan a reculé drastiquement pendant les dernières années et surtout depuis aussi la reconquête de l'élection du Haut-Karabakh. Un chiffre, si par exemple, donc pour le président d'Aliyev, pour le président d'Azerbaïdjan Aliyev, on oublie un peu déjà le nombre d'élections et de réélections, les dernières élections qu'il a eues, c'était le 7 février dernier, en face de lui, il a eu 7 opposants. Et ces 7 opposants qui étaient tous réunis la veille des élections, donc pour un débat, ils se rivalisaient tous farouchement, pas pour obtenir plus de voix, mais pour obtenir le moins de voix possible. Et donc, chacun de ces 6 opposants appelait à voter pour Aliyev parce qu'il était magnifique, il était génial, c'était la plus grande chance que l'Azerbaïdjan pourrait avoir pour le pays. Et donc, on voit qu'il y a un durcissement du régime dictatorial, en fait totalitaire, mais aussi, il s'agit aussi d'une expansion, d'un élargissement, d'une expansion de cet état totalitaire, d'autant plus donc que après le nettoyage ethnique du Haut-Karabakh, donc après l'annexion du Haut-Karabakh, c'est un espace autoritaire, totalitaire, qui se propage, qui s'élargit au détriment de l'espace de la démocratie. Et donc aujourd'hui, suite au nettoyage ethnique du Haut-Karabakh en septembre dernier, c'est pas seulement un espace de peuplement arménien, d'ailleurs exclusivement arménien, qui depuis au moins 25 siècles n'a pas jamais eu une interruption de la majorité absolue arménienne. Donc non seulement il s'agit de rétrécissement de l'espace arménien, c'est aussi un rétrécissement de l'espace civilisationnel tout court, c'est un rétrécissement, un recul drastique aussi de l'espace de la démocratie. Et donc, quand on voit aussi après l'annexion du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan, c'est aussi la lutte contre les symboles aussi de la démocratie, c'est non seulement tout le patrimoine historique millénaire arménien qui est menacé, d'ailleurs on voit très bien tous les jours à quel point l'Azerbaïdjan souhaite effacer ce patrimoine culturel arménien, parce que c'est effacer le patrimoine arménien, c'est de pouvoir réécrire l'histoire, c'est de montrer que les Arméniens n'ont jamais existé dans ce territoire et de dénier toute historicité au peuple arménien dans cette région. Mais l'Azerbaïdjan, le régime azerbaïdjanais, c'est encore aussi des symboles de la démocratie. Tout de suite après, quelques jours après, c'est la destruction de bâtiments du Parlement, parce que c'est le symbole de la démocratie. Après, c'est le gouvernement. Les autorités, les dirigeants démocratiquement élus du Haut-Karabakh sont aujourd'hui dans les prisons de Bakou. Donc, et je suis tout à fait d'accord, je partage entièrement les propos, bien sûr, d'analyse de Jean-Michel Blanquer, mais aussi de Patrice Franceschi, qu'il s'agit que malheureusement, c'est un constat aujourd'hui factuel, les régimes autoritaires s'entraident, ils sont mobilisés, il y a une coopération très forte, et en face, nous avons des démocraties qui sont quand même extrêmement timide. On a en Azerbaïdjan, en Russie, en Turquie, des dirigeants qui ont maintenant sont au pouvoir depuis plus de 20 ans, donc ces décennies. Ils se connaissent très bien. Et aussi, on voit aussi que même dans la recomposition des alliances qu'on voit aujourd'hui dans notre région, non seulement, oui, il y a la guerre en Ukraine qui restructure un peu, qui bouleverse un peu les alliances, mais aussi, s'il y a une coopération aussi remarquable entre la Russie, l'Azerbaïdjan et la Turquie, parce qu'il s'agit aussi des régimes similaires, qui ont les mêmes méthodes de fonctionnement, donc ils se connaissent, ils s'organisent, et encore une fois, en face, on a des démocraties qui s'organisent, qui se coordonnent plus timidement, et ils sont plus timides aussi pour apporter un soutien. Donc aujourd'hui, ces jours-ci, M. Vassoyan a rappelé qu'on était dans la semaine des commémorations du génocide, c'est quelque chose, je pense, qui est évident, ce que Yegalien a rappelé aussi. Pour l'Arménie, il s'agit, pour le peuple arménien, il s'agit d'une menace d'effacement, d'anéantissement qui dure presque 130 ans. Donc aujourd'hui, l'Arménie a besoin de ne pas se contenter de ce soft power pour pouvoir se protéger. Donc renforcer les capacités de défense de l'Arménie, c'est important. Aider l'Arménie à se défendre, c'est important. Opposer une force à l'Azerbaïdjan, à la Turquie, c'est important. De sanctionner, c'est important, parce que comment on peut stopper? On stoppe en renforçant l'Arménie, un pays démocratique, malgré toutes ses difficultés actuelles, viscéralement attaché à la démocratie. C'est aussi en stoppant l'adversaire. En stoppant l'adversaire, c'est montrer qu'il ne peut pas avoir de l'impunité, et donc il faut opposer des sanctions. Après, aider les démocraties, c'est aussi aider les économiquement, parce qu'on sait aussi que pour pouvoir être un État viable, il faut être un pays, un État qui puisse protéger sa propre sécurité et qui puisse avoir aussi, assurer sa sécurité, il a besoin aussi de développement économique. Et je pense qu'on peut offrir, l'Arménie peut offrir aussi des opportunités à la France, certainement ses alliés aussi, mais surtout à la France aussi. En premier lieu, l'Arménie est un pays qui est à 100% inconditionnellement francophile. Et je pense avoir aussi un État pivot, un État inconditionnellement acquis à la France, un État qui partage, qui a une amitié inconditionnelle pour la France et depuis millénaire, je pense géopolitiquement aussi c'est important. Et que cet allié, donc je pense que Clémenceau en 1918 parlait de l'Arménie, le petit allié, petit allié vaillant, vaillant petit allié de la France. Et je pense que c'est pour que cette vaillante petite alliée de la France, et je pense que ça encore aujourd'hui, ça a du sens, parce que la guerre n'est pas finie, on n'est pas dans une première guerre mondiale, mais on est dans une guerre presque mondialisée, et je pense qu'on a besoin, la France aussi, en fait, on a comment en 1915, peut-être comme en 1900, pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, on a l'exemple des Arméniens qui ont donné leur vie pour la liberté de la France. On a eu l'entrée au Panthéon de Messac-Montfort. Aujourd'hui encore, je pense, avoir une vaillante petite alliée dans cette partie du monde est important, mais pour que cette alliée puisse être plus utile aussi à la France, il faut qu'elle soit forte, viable, et donc tout ce qui pourrait protéger, renforcer cet État démocratique attaché à la liberté et assurer sa protection, sa sécurité et sa viabilité, je pense que c'est aussi dans l'intérêt de la France.
AIPFM y était, l'émission sur l'événement marquant dans la communauté arménienne, présentée par Melkon Ajamian et Nouné Mardirossian tous les lundis à 12h15. AIPFM Neshkaej, հաղորդաշարն նվիրված հայկական համայնքին, հետևեք Նունե Մարտիրոսյանի և Մելքոն Աջամյանի պատրաստած հաղորդմանը ամեն երկու շաբթի ժամը 12:15-ին։
my bed and I feel alone again, 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 again. Why in my dreams I see the one who can set me free, and in reality no one is taking care of me, no one who can give to me, no one who can marry me. Come on. And contradictions, I go where I want, I will be where I wanna be. I need someone for me. Access to me, no one, 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 no one. I don't want nobody who play this game with me, and in reality no one is gonna play with me, no one who can ever ruin me, no one who can ever hate me. Come on, come on, come on. And contradictions, I go where I want, I will be where I wanna be. I need someone for me.
Sometimes every girl's got their own weakness. Just sharing why in this universe we're not always fighting.
We're still fine, goddess. That's fine. À Mediaschool, la formation dure tout au long de la vie. Nous proposons 3 cursus adaptés aux emplois du temps des cadres et cadres dirigeants en marketing et communication.
C'est revenir sur les basiques du marketing et de la communication, mais dans l'environnement digital.
Je retiens de ce programme un apprentissage hyper diversifié qui m'a permis de visualiser les projets data au niveau économique et stratégique.
J'ai vraiment développé la méthodologie de travail autour de cette transformation et de cette mutation des entreprises.
Si vous aussi vous souhaitez développer vos compétences et ajouter de nouveaux atouts à votre CV, rendez-vous sur mediaschool.eu.